RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour. Aux confins de l'Union européenne, des familles avec des enfants vivent dans des conditions qualifiées d'indignes. C'est le cas notamment dans le camp de Moria, sur l'île de Lesbos, à l'est de la mer Égée. La surpopulation y a atteint des sommets cet hiver. En décembre dernier, ce centre d'enregistrement pour réfugiés et migrants accueillait plus de 6200 personnes pour 2300 places. Des Syriens, des Afghans, des Irakiens, mais aussi des Congolais ou des Guinéens. Toilettes bouchées, eau froide pour se laver, des petites tentes d'été plantées dans la boue, des explosions de violence. C'est dans ces conditions que les familles doivent attendre, parfois pendant plusieurs semaines, avant d'être enregistrées. Elles espèrent ensuite trouver place dans deux autres centres à taille humaine, gérés par la mairie, et des bénévoles sur l'île. Après la guerre, c'est un nouveau traumatisme pour ces familles venues chercher refuge en Europe. Le difficile quotidien des familles de réfugiés à Lesbos, un grand reportage signé Charlotte Stielnard.
Je suis Farah. Je m'appelle Vian. Mon rêve, c'est d'obtenir mon diplôme d'esthéticienne. Je veux devenir traductrice.
Les rêves de ces deux Irakiennes de 25 et 21 ans sont en suspens. Assises sur un banc avec leur mère, elles racontent leur vie quotidienne au camp de Kara Tepe sur l'île de Lesbos. Le lieu est géré par la municipalité. Il peut accueillir jusqu'à 1200 personnes, surtout des familles. Les deux sœurs vivent ici depuis 2 mois. Avant, elles ont passé 1 mois au centre d'enregistrement pour migrants de Moria.
La différence principale entre Kara Tepe et Moria, c'est qu'ici nous avons notre propre conteneur. À Moria, nous habitons dans une tente. 4 familles se partagent une tente. La seconde différence, c'est que la salle de bain est beaucoup mieux, car les hommes et les femmes sont séparés. À Moria, elles sont mixtes. Il y a la nourriture aussi. Ici, il y a des bénévoles qui vous l'amènent dans votre conteneur. À Moria, vous devez attendre en ligne.
À Kara Tepe, il y a même des activités pour les jeunes et les adultes.
Le lundi, c'est la fête dans la cuisine. C'est réservé aux bénévoles.
Tu y vas ?
Oui, je suis bénévole, donc j'y vais.
Et tu vas aux leçons ?
Ma sœur apprend le grec.
Mila Selenika ?
Tikanes.
Kalaime. Et si, Tikanes ?
Kala.
Leur rire cache d'autres problèmes. Elles attendent la réponse à leur demande d'asile, anxieuses à l'idée d'être renvoyées en Turquie. Car depuis l'accord entre l'Union européenne et la Turquie signé en mars 2016, c'est possible. Depuis leur expérience à Moria, elles ne se sentent pas bien. Heureusement, à Kara Tepe, elles peuvent être prises en charge au centre médical. Vous vous disputez beaucoup à cause du stress ?
Oui, nous parlons avec un psychologue car nous avons des problèmes.
Nous ne pouvons pas dormir.
Nous ne dormons que 5 heures par jour.
Nous pleurons tout le temps.
Et Moria, c'était très sale, la salle de bain est très sale. Les animaux ne peuvent pas vivre là-bas. Alors les humains ?
Mais même à Kara Tepe, tout n'est pas parfait. Pendant les premiers mois de l'hiver, le chauffage ne fonctionnait pas. Pour Farah, la municipalité a au moins le mérite de faire respecter les règles, contrairement à Moria, malgré la présence de la police.
C'est un endroit dangereux, car quand vous dormez la nuit, il y a toujours des hommes qui se battent avec des couteaux ou avec des grands bâtons. Vous ne pouvez pas dormir. Vous avez toujours peur. Et il y a aussi beaucoup de gens différents. Vous ne pouvez parler à personne. Vous ne pouvez pas vous faire d'amis.
À Moria, le désespoir se chante. Ce centre d'enregistrement géré par l'État grec a des airs de prison. Depuis quelques mois, il déborde à nouveau. De nombreuses familles ont préféré s'installer en dehors du périmètre grillagé du camp. C'est le cas de Mohamed et Fayrouz Daoud, un couple venu d'Alep, en Syrie, avec leurs deux jeunes fils et leur fille. Ils ont planté leur petite tente au milieu des oliviers.
Ils nous avaient mis au milieu des déchets. J'ai une famille et une fille jeune. Il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur. Ils boivent tous, fument du cannabis et prennent des drogues. Je ne veux pas de ça car j'ai une famille. Nous sommes venus ici pour éviter ces problèmes.
Cet ancien chauffeur de taxi et sa famille sont arrivés sur l'île de Lesbos il y a 17 jours. Ils sont restés 10 jours dans la zone réservée à l'enregistrement. Quand ils sont sortis, on leur a donné une petite tente et un emplacement au milieu des déchets à l'intérieur du camp.
Ma femme et mes enfants sont fatigués nerveusement à cause de cette petite tente, l'espace réduit dans lequel nous vivons. Mettez-vous dans notre situation, vous n'accepteriez pas de vivre comme ça.
Le plus dur, c'est pour ses enfants, déjà traumatisés. Il explique que sa fille de 15 ans a arrêté de parler à leur arrivée ici. Il nous montre aussi les cicatrices sur les bras de son fils de 12 ans qui se balance d'avant en arrière. Il l'a tiré des décombres de sa maison bombardée pendant la guerre à Alep.
Ils prennent plus soin des hommes seuls que des familles. Ils prennent plus soin de ceux qui viennent de pays sûrs. Je peux vous montrer une photo de ma maison sur mon téléphone portable. Si elle n'était pas détruite, je ne serais pas venu ici.
À Moria, les familles sont partout. Les enfants jouent dans la poussière et le froid sous l'œil fatigué des parents. Depuis cet été, plus de la moitié des réfugiés et migrants qui arrivent sur les îles grecques de l'Est de la mer Égée sont des mineurs ou des femmes. À la mi-novembre, l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières a décidé d'installer une clinique d'appoint à l'extérieur du camp, spécialement pour les enfants. Dans une caravane aménagée en salle d'examen, le docteur Ambros Bokari Yopoy est aux commandes. Ce Sierra Léonais interroge une mère de famille syrienne sur les symptômes de son petit garçon de 2 ans qui s'agite sur ses genoux. La nuit, pour faire baisser la fièvre, la mère applique simplement un tissu mouillé sur son front. Le petit garçon ne cesse de retomber malade. Pour le docteur Yopoy, c'est un cas classique.
D'après ce que nous avons vu jusqu'ici, la vaste majorité des enfants ont des problèmes de diarrhée. C'est une des pathologies principales. Et bien entendu, il y a aussi des pneumonies, à cause du froid et des conditions horribles en hiver. Je peux vous citer un exemple, quelque chose que j'ai entendu il y a quelques jours. J'ai visité le camp et j'ai vu un bébé qui avait de la fièvre, un enfant de moins de 5 ans. Il n'était pas bien habillé, donc quand je demandais aux parents, ils m'ont dit qu'ils avaient lavé la veste de l'enfant et qu'ils n'en avaient pas d'autre. J'ai demandé comment c'est possible. Donc imaginez que c'est l'hiver, quelqu'un est dehors dans le froid, sans veste, un enfant pour être précis. C'est une scène vraiment difficile à regarder. À cause de leurs conditions de vie, ils sont facilement malades et ils n'arrêtent pas de revenir ici.
Médecins sans frontières s'est équipé d'une pharmacie pour donner gratuitement des médicaments dans la limite de ses stocks. Malgré cela, il est difficile pour les parents de respecter les conseils des docteurs.
Certains enfants ont des problèmes de constipation. Nous essayons de dire aux parents de leur fournir de la nourriture de base, comme des fruits par exemple. Ils demandent « Où est-ce que je peux en avoir ? Nous n'avons pas ça. » Et s'ils vont à l'hôpital, ils leur prescrivent des médicaments qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Donc ils doivent compter sur nous. Nous donnons ce que nous pouvons, ou alors nous devons trouver des alternatives.
Twice per day, you know? Then you have to manage.
À Médecins Sans Frontières, les docteurs travaillent avec des médiateurs culturels comme Marjan Abidian. Cette traductrice parle farsi. Elle communique donc principalement avec des familles afghanes et iraniennes. Les parents, à bout, se confient souvent à elle.
Le sentiment général de ne pas être en sécurité affecte toute la famille. Vous voyez des parents soucieux, vous voyez des enfants exténués, donc ils se mettent en colère facilement. Vous voyez beaucoup d'enfants qui font pipi au lit la nuit, ils font des cauchemars, ils sont anxieux. Les parents n'y arrivent pas, ils voient ce qu'ils devraient faire, mais ils ne peuvent pas, donc ils se sentent coupables d'être de mauvais parents. Ils sont très conscients de ça, mais ils ne peuvent pas changer cette situation.
Un peu plus loin, un autre médecin de l'organisation non gouvernementale attend ses premiers patients un demi-litre de café à la main. Ces quatre derniers mois, le docteur Theodoros Fachouridis a surtout travaillé avec des victimes de torture et des victimes de violences sexuelles.
Le fait que ces victimes se retrouvent dans une situation comme à Moria, cela crée des tensions au sein des familles. Il y a des mères et des pères qui n'arrivent plus à jouer leur rôle de parents. Donc cela provoque chez eux des problèmes psychologiques. Ces pères et ces mères qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants courent un risque important d'être victimes de dépression.
À cause du sentiment de culpabilité ?
Oui, et aussi souvent, vous avez certains pères en particulier qui sont en état de stress post-traumatique. Ils ne peuvent pas vivre au sein de leur famille, leurs relations en sont affectées. On a des pères qui deviennent agressifs vis-à-vis de leur famille. Ils ont des crises de panique sous les yeux de leurs enfants. Cela crée des tensions au sein des familles. Et souvent, vous avez des couples qui essaient de se séparer, ils veulent divorcer. Ce sont surtout des gens qui reviennent de la guerre et la situation ici n'aide pas.
And the situation doesn't help. And il y a des zones protégées pour ces familles ici?
Non, il n'y a aucune protection pour ces familles. Il n'y a aucune protection pour personne, que ce soit une famille, un mineur non accompagné, une femme ou encore un homme seul. Les infrastructures du camp sont complètement inadaptées pour une population aussi importante. Mes collègues à Moria voient surtout des infections respiratoires et des problèmes de diarrhée. Elles sont directement liées aux mauvaises conditions de vie. Les gens ne sont pas protégés de la pluie, ils ne sont pas protégés du froid, ils n'ont pas assez de toilettes. De façon générale, les infrastructures du camp sont très mauvaises.
Les personnes les plus vulnérables ont parfois la chance de pouvoir quitter le camp. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés met environ 460 places dans des hôtels et des appartements à leur disposition. Ce couple et leurs deux enfants y ont passé 2 mois.
Je m'appelle Ahmed Jalad. Je viens d'Irak et de Palestine. J'étais chef pâtissier et j'ai 32 ans.
Je m'appelle Sabrine, je viens d'Irak. J'ai 23 ans et je suis mère de famille. Nous sommes arrivés il y a 1 an et 4 mois. Les 5 premiers mois, nous sommes restés à Moria. Ils nous ont ensuite emmenés dans des hôtels avant de nous transférer à Pukpa.
Ils vivent dans une petite maisonnette en bois, une pièce pour toute la famille. C'est un ancien centre de vacances situé à Mytilène, le chef-lieu de l'île de Lesbos. Il y a 6 ans, des bénévoles locaux ont décidé de l'occuper pour y accueillir les réfugiés qui commençaient à débarquer sur les côtes de l'île. Aujourd'hui, ils accueillent les plus vulnérables et ceux qui restent longtemps, bloqués par des situations juridiques compliquées, comme Sabrine Jalat et son mari. Elle est chiite, il est sunnite. En plus, il est accompagné de son petit frère mineur de 17 ans. Ils se sont retrouvés avec des papiers différents. Pour Ahmed Jalat, leurs problèmes rendent leur vie de famille difficile.
La police a dit que ma femme et les enfants peuvent quitter l'île. C'est un papier de la police grecque, pas du Bureau européen d'appui pour l'asile. Ma femme a eu ces papiers 3 jours après notre arrivée sur l'île. Moi, j'ai aussi la responsabilité de mon petit frère mineur de 17 ans. J'ai eu mes papiers 1 mois plus tard. Quand je me suis rendu au service d'asile, ils m'ont mis un tampon rouge, donc je ne peux pas quitter l'île. Notre problème, c'est que la police et le service d'asile nous ont donné des papiers différents.
Ce stress a un impact sur votre vie de famille?
Does it impact your family life?
Bien entendu, regardez ma femme. Elle n'avait pas de problème quand on était en Irak. Depuis que nous sommes arrivés, elle a commencé à avoir des problèmes psychologiques. Des rougeurs, signe d'une allergie, ont aussi commencé à apparaître sur son corps. Elle a commencé à se gratter jusqu'au sang.
Par chance, il a trouvé un travail dans le local de l'association Solidarité Lesbos, à la maison Mosaïque. Il y coud des sacs, ce qui l'aide à s'évader. Mais le stress a rendu leur dispute plus violente qu'auparavant, et surtout leur fille de 4 ans est traumatisée, explique sa mère.
Il y a une grande différence dans son comportement. Quand nous étions à Moria, elle a arrêté de manger et elle est devenue très faible. Elle disait qu'elle voulait retourner dans notre maison en Irak. Elle était devenue tellement faible que nous avions commencé à lui dire que nous allions rentrer à la maison. Quand nous sommes passés de l'Irak à la Turquie, il faisait nuit noire comme ici avec les arbres et les montagnes. Quand on va à Mytilène, elle a peur, car elle pense que nous allons repartir avec un passeur.
Depuis l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, pour les réfugiés et migrants, un des seuls moyens d'éviter à coup sûr d'être renvoyé de l'autre côté de la mer Égée, c'est d'être reconnu comme vulnérable. Les familles ne font pas forcément partie de cette catégorie. Efila Tsoudi fait partie des fondateurs du camp de Pikpa. Cet activiste travaille pour l'organisation non gouvernementale Refugee Support Aegean. Ils apportent une aide juridique aux réfugiés. Elle rappelle qu'il ne faut pas oublier que tous les réfugiés ont le droit de vivre dans des conditions dignes, vulnérables ou pas.
Dans ce système, nous ne cherchons plus à savoir si une personne peut obtenir l'asile et la protection qui en découle. Nous cherchons à savoir si une personne est vulnérable. Cela veut dire qu'il faut que tu aies en quelque sorte la chance d'être malade, handicapé, d'avoir quelque chose de grave, d'être enceinte pour être exemptée de retour en Turquie.
C'est également cette catégorie qui est autorisée à quitter l'île quand le gouvernement décide de désengorger les camps. Mais cela ne fonctionne pas tout le temps. Pour Efila Tsoudi, c'est tout le système qui doit être remis en cause. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour adapter Moria aux familles?
Le fermer. Cet environnement n'est adapté pour personne. L'année dernière, nous avions moins de familles et nous avions plus d'hommes seuls. C'était déjà dramatique. Ils finissaient tous en psychiatrie. Mais le plus terrible, c'est d'avoir des familles dans Moria. Nous créons de véritables zones de guerre. Il manque juste les bombes qui tombent. Il y a des tensions terribles à l'intérieur. Il y a de la violence à cause des conditions de vie et de la forte concentration au même endroit. C'est le type de misère que seules les guerres peuvent créer.
Les autorités se renvoient la balle. Pour Yanis Mouzalas, le ministre grec de l'immigration, si la situation est aussi mauvaise à Moria, c'est parce que les réfugiés y sont trop nombreux. Selon lui, les retours en Turquie sont trop lents par rapport aux arrivées. Il met aussi en cause le refus des autorités locales de construire un deuxième camp comme Moria. Martine Vervet, en charge de l'application de l'accord Union européenne-Turquie à la Commission européenne, estime que l'argent fourni par les partenaires de la Grèce est mal utilisé. Quoi qu'il en soit, pour le deuxième hiver consécutif, des réfugiés et des migrants dorment dans de petites tentes en famille. Le difficile quotidien des familles de réfugiés à Lesbos, un grand reportage de Charlotte Stiernard, réalisation Pierre Chaffonjon.